Il y a toutes sortes de clichés qui sont reliés à la communication, au vieillissement également. Des fois, il y a cette idée hein, selon laquelle plus on vieillit, moins on est capable de communiquer. Tous ces clichés, ces idées préconçues à propos de la dégénérescence du cerveau qui vient avec le déroulement du temps. Heureusement, il y a le docteur Yves Joannette, professeur-chercheur à l'école, à la faculté de médecine de l'Université de Montréal, qui va nous, qui va complètement déboulonner tous ces mythes qui, vous allez voir, parfois reposent sur de vieilles recherches. Docteur Joannette, bonjour.
Oui, bonjour.
Donc, on vous identifie comme professeur-chercheur à l'Université de Montréal, mais vous portez plusieurs chapeaux, dont celui de directeur scientifique à l'Institut du vieillissement des instituts de recherche en santé du Canada.
Tout à fait.
D'abord, sur quoi se concentrent vos recherches?
Alors, mes propres recherches se concentrent sur une meilleure compréhension de comment notre fabuleux cerveau fait en sorte pour vieillir le mieux possible, de vieillir au sens de maintenir ses activités cognitives, et en particulier un aspect qui se maintient bien lors du vieillissement, et c'est la capacité à communiquer.
Et bon, je vous cite, vous avez déjà décrit l'étude du vieillissement comme une science assez jeune née dans une entrevue bon, qui date déjà de 2012. Vous disiez « Dans l'histoire humaine, le vieillissement est un phénomène récent. Il n'y a pas très longtemps qu'on vieillit suffisamment pour susciter des études sur ce sujet. » Mais j'imagine que, bon, ça fait déjà presque 5 ans cet article-là. L'impact de ces recherches-là doit déjà se faire sentir.
Oui, mais en même temps, 5 ans, c'est pas beaucoup hein, pour la science. Ça prend du recul, ça prend de l'intérêt. C'est vrai qu'il y a eu énormément de travaux et il y a eu beaucoup d'impact déjà de ces travaux sur comment, sur notre connaissance de comment on vieillit, comment on peut mieux vieillir. Mais il reste que l'intérêt pour le vieillissement, ça reste récent. C'est pas quelque chose qui date, on va dire, de 100 ans ou de plus d'un siècle. Et le domaine en souffre un peu, dans le sens où c'est une science qui est paradoxalement assez jeune, celle du vieillissement. Et on a besoin de gens qui s'y intéressent, on a besoin de jeunes qui s'y intéressent, et c'est un domaine en devenir.
Et comment va la relève dans ce sens-là, justement?
Écoutez, elle va très bien, la relève. Il y a énormément d'étudiants au cycle supérieur qui s'intéressent à cette question-là. C'est de plus en plus d'intérêt, mais en même temps, il faut que les investissements de public et privé dans ce domaine-là suivent. C'est comme ça que on peut susciter la recherche. Et force est de constater que, par exemple, les maladies du vieillissement, comme par exemple la maladie d'Alzheimer, bien qu'il y ait beaucoup d'efforts qui sont faits, ça reste une proportion très faible des investissements qu'on fait, par exemple, pour comprendre le cancer ou les maladies cardiovasculaires, qui sont pas beaucoup plus fréquentes, même dans certains cas moins fréquentes. Alors, il y a un investissement là à faire de notre société.
Donc, ce que vous semblez dire, c'est que les ressources allouées à ce type de recherche-là ne suivent pas les tendances démographiques actuelles.
Les ressources actuelles vouées à ce type de questions-là ne suivent pas les tendances démographiques pour des tas de raisons. Il n'y a personne qui bloque ça quelque part, mais c'est que ça prenait une capacité de recherche, ça prenait une communauté de chercheurs, ça prend une capacité à bien apprécier la recherche dans ce domaine-là. Vous savez, quand on fait de la recherche et qu'on soumet des projets pour financement, ben on se fait évaluer par des pairs. Et les pairs, ben ils doivent être en mesure de bien apprécier c'est quoi une recherche sur le vieillissement, parce que ça implique des dimensions longitudinales, c'est des nouvelles méthodologies. Alors, c'est naturel que ça prenne un peu de temps, mais c'est pas à la hauteur encore, en effet.
Et bon, abordons un peu plus précisément le sujet de la communication et du vieillissement. Ouais. Il existe un cliché, bon, comme quoi les facultés de communication peuvent s'atténuer en vieillissant. Vous semblez vous-même pas très d'accord avec cette assertion-là. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bien, écoutez, notre cerveau est très complexe. C'est celui qui nous permet de penser, de se remémorer, de planifier. Et c'est vrai que dans l'ensemble, avec le vieillissement, il se modifie et certaines des capacités que l'on voit chez des jeunes adultes, on les voit un peu moins chez des adultes âgés. Ceci étant, on a toujours comparé les adultes âgés à des adultes jeunes. Si on avait fait le contraire, ou si on faisait le contraire, et si on regardait qu'est-ce qui caractérise des adultes âgés, et leur sagesse et leur connaissance, et on comparerait des jeunes, on trouverait des aspects plus souvent pour lesquels ils sont meilleurs. Mais pour revenir à votre question, la communication, la capacité à communiquer avec autrui, c'est probablement un des aspects du fonctionnement du cerveau qui est le mieux préservé avec l'âge.
Et est-ce que ce cliché-là, justement, ne repose pas sur de la vieille recherche qui a été démentie plus récemment?
Ben, oui, c'est une vieille recherche qui, vous savez, en recherche sur le vieillissement, il y a eu on a souvent abordé la chose en essayant de trouver la petite bête et en ayant une attitude d'un peu d'agisme, c'est-à-dire d'aspect négatif du vieillissement. D'ailleurs, on n'est pas libéré de cette attitude d'agisme dans la société, mais en science, il y avait un peu cet agisme par rapport au vieillissement et on pensait que tout devenait moins bon, que ça allait un peu du mauvais côté là avec le vieillissement, alors qu'il y a des aspects du fonctionnement et en particulier la communication qui en fait s'améliore même avec le vieillissement.
Et elle s'améliore. Bon, vous dites que les capacités peuvent s'améliorer. Ce serait quoi le mécanisme par lequel on mesurerait cet effet-là?
Ben écoutez, il y a des choses bien simples là, et vous allez bien comprendre. Par exemple, pour que l'on communique de façon précise, pour que l'on puisse échanger, ben il faut connaître nos mots, il faut connaître les concepts. Ben c'est évident que plus on avance en âge, plus on en connaît. En fait, c'est un des bons côtés d'avancer en âge, c'est on est de plus en plus performant au Scrabble. C'est une blague, mais je veux dire, on en connaît plus de mots. Alors, ça démontre, je vous dis pas que c'est que ça, mais ça démontre que c'est une dimension importante. Et en fait, c'est une dimension importante qui est nécessaire parce que pour bien vivre l'avancée en âge, on peut pas être seul. Hein, je veux dire, s'il y a une chose qu'on sait, on peut manger toutes les bonnes choses du monde, on peut faire de l'exercice et tout, mais on peut pas être seul. On doit connecter avec les autres. On doit bénéficier d'un réseau d'amis, d'un réseau de connaissances. Et bénéficier d'un réseau, ça veut dire qu'il faut avoir un outil pour communiquer dans ce réseau. Et puis, ben, l'être humain, son outil, c'est le langage, c'est la communication. Donc, c'est naturel que ce langage qui nécessite pas de courir très vite, qui nécessite pas de lever des poids, mais qui soit maintenu et heureusement, ça nous permet de bien vieillir comme ça.
Donc, vous avez énuméré plusieurs moyens qu'on a de conserver ou même améliorer cette faculté de communication. On le sait, le cerveau est on dit souvent que le cerveau est un muscle. Vous avez mentionné l'exemple du Scrabble. Mais justement, vous prononcez une conférence sur le sujet la semaine prochaine.
Oui. Alors, je disais le Scrabble comme indice, mais évidemment, ne nous mettons pas tous au Scrabble parce que c'est pas ça, c'est pas la pilule magique, là, loin de là. Par contre, il y a des choses qu'on commence à comprendre et qui viennent pas de mon équipe, des recherches de mon équipe elle-même, mais celles, par exemple, du docteur Ansaldo de l'Université de Montréal et de bien d'autres équipes de par le monde. Et on sait que, par exemple, si on maintient un cerveau actif, ben, on va combattre les effets du vieillissement. On peut même combattre certaines des maladies comme l'Alzheimer qui survient lors du vieillissement. Non pas combattre la maladie, mais ses manifestations. Puis une des choses qui est, alors là, sur laquelle on s'entend très bien, c'est le fait de manipuler et d'utiliser au quotidien plusieurs langues. Alors, non seulement de les apprendre, mais de les utiliser au quotidien, il semble que ça a un effet extraordinaire.
Et c'est ce que vous allez aborder dans votre conférence prochaine?
Entre autres, lors de cette conférence, je vais parler du vieillissement de la population, je vais parler des facteurs qui favorisent un vieillissement en santé, parce que vieillir en absolu, c'est pas ça qu'on veut. On veut vieillir en état fonctionnel, en santé. Et
évidemment,
je vais parler en particulier de la communication, de tout ce que l'on connaît, de comment le cerveau se réorganise lors du vieillissement, parce que le cerveau lui-même se réorganise pour être plus efficace. Et je vais parler de différents facteurs, dont, par exemple, des avantages de manipuler plusieurs langues.
Donc, tout ça, c'est très éclairant, docteur Joannette. Je vous remercie énormément de votre participation à l'émission.
Merci beaucoup, merci pour l'entretien et bonne trajectoire de vie à vous aussi.
Merci. C'était donc le docteur Yves Joannette, professeur-chercheur à l'École d'orthophonie et d'audiologie de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Sa conférence « Cerveau, communication et vieillissement, une combinaison gagnante » présentée le 22 février à 13h30. Vous pouvez encore vous inscrire sur le site www.bellesoireesaupluriel.umontréal.ca. C'est une conférence de 2 heures, tarif régulier 25 $, 60 ans et plus 21 $. Et pour les étudiants, si vous écoutez, 15 $.